Bonsoir tout le monde et bienvenue au stade Saputo pour ce match de soccer entre l'Impact de Montréal et le Atlanta United. L'Impact de Montréal ce soir qui reçoit la visite de la meilleure équipe de la Conférence de l'Est. Mon nom c'est Jérémy Filosan, votre compagnie ce soir jusqu'à 23h approximativement, et celui qui sera à l'analyse du match, eh bien c'est mon collègue Arcadio Marcuzzi. Salut Arcadio!
Salut Philo!
Alors Arcadio, on va faire un trait sur tout ce qui s'est passé cette semaine, on l'espère, chez l'Impact de Montréal, puisque on a connu plusieurs très bonnes semaines consécutives, mais cette semaine, on a eu malheureusement des mauvaises nouvelles sur le terrain. Le match à Vancouver a oublié vraiment de A à Z de la performance des joueurs. J'ai été très critique envers l'entraîneur et la façon dont il a géré son équipe dans les deux derniers matchs plus spécifiquement. Et il y a eu toute l'histoire, Jimmy Briand, bien sûr, vers la fin de la semaine, qui nous a un peu laissé un goût amer dans notre bouche, disons la vérité. Et là, ben, on a une opportunité. Je ne sais pas si on devrait appeler ça une opportunité, parce qu'on affronte la meilleure équipe de l'Est. Il y a des gars fatigués. Il fait chaud. C'est une longue séquence de 7 matchs sur 22 jours. Il y aura assurément de la fatigue. Mais je pense que tout le monde a un peu l'esprit à vouloir faire oublier ce qui s'est passé cette semaine.
Non, tout à fait. Je pense que le scénario, le tableau est intéressant, justement, comme tu l'as mentionné. Une belle opportunité pour faire oublier la déception du championnat canadien et la déception de Jimmy Briand, même si ce n'est pas nécessairement la faute du club. Ça reste une amère déception. On attendait ce gars-là, pas nécessairement comme un sauveur, mais ça allait être un renfort de taille. Le fit était parfait également. Donc, vraiment beaucoup de regrets de ce côté-là. Et beaucoup de regrets aussi de la façon dont on a perdu ce championnat canadien, dont on a été éliminé. Donc, les joueurs, je pense qu'ils ont très hâte de passer à autre chose. Et face à une équipe comme Atlanta United à domicile, c'est une très belle occasion pour le faire.
Bon, tirons un trait sur le championnat canadien qui, c'est conclu mercredi soir à Vancouver. Je regarde un peu l'alignement qu'on utilise ce soir chez l'Impact. C'est l'alignement type qu'on connaît normalement, le 4-3-3 avec tous les réguliers, mis à part Yuka Raitala, le défenseur gaucher qui ce soir va jouer à droite parce que, bon, c'est un peu compliqué pour Michael Petrasso, disons la vérité, mais pour le reste, ce sont tous les habituels. Moi, c'est le genre de schéma que j'aurais utilisé à Vancouver. Peut-être Chamit Chaume à la place de Crawley Key, étant donné le règlement des joueurs canadiens. Voilà. Et probablement, bien sûr, Petrasso à la place de Raitala sur la droite. Mais c'est le schéma que j'aurais utilisé à Vancouver pour essayer de gagner cette compétition. Et peut-être que j'aurais effectué une semi-rotation à Portland et une autre semi-rotation ce soir ici contre Atlanta. Deux matchs qui, on le sait, là, ce ne serait pas une énorme surprise là, si l'Impact n'en sortait pas gagnant. Là.
Non, c'est sûr. C'est sûr qu'on peut discuter des choix de Rémi Garde, ne pas être d'accord. Lui, évidemment, il a ses raisons, il a sa philosophie par rapport à ça. Comme je te disais, là, on peut y adhérer ou pas. Moi, ce qui m'a surtout dérangé là, à Vancouver, c'est au-delà du 11 partant de Rémi Garde qui aurait pu être un ou deux éléments près meilleurs. On pense notamment à Nacho Piatti. Je pense que c'est aussi le rendu des joueurs là, qui m'a déçu.
Ah, ben
on
oui.
est sorti à plat alors que, la situation commandait un effort supplémentaire, commandait beaucoup plus de passion, et ça, on l'a pas vu du côté des joueurs. Au-delà du 11 partant, au-delà du schéma tactique, je pense que ça, les joueurs en sont conscients, et aujourd'hui, ben, ils tenteront de faire amende honorable de ce côté-là.
Écoute, moi, je pense qu'il y a probablement des joueurs qui, un peu comme moi, ont regardé le schéma et se sont dit « Pourquoi nous n'allons pas à Vancouver avec une mentalité offensive, avec l'intention de marquer le premier but ? » Et ensuite, de cela, on force l'adversaire à en marquer 3. Et ensuite, si on veut procéder à un changement pour passer dans un 5-3-2, alors ça va.
Je suis convaincu.
Mais je pense qu'il y a des joueurs qui l'ont pas trop compris. Là,
je suis convaincu celle-là. Qu'il y a des joueurs qui ont pas dû être d'accord avec les décisions du coach. Ça arrive à chaque match, j'imagine. Mais en même temps, ça peut pas être un élément qui va te démotiver. Si tu es un athlète professionnel, tu peux pas être démotivé par les décisions de l'entraîneur. Ça, il n'y a pas d'excuse. Là. Une demi-finale, il faut que tu sortes avec le couteau entre les dents. Je sais qu'il y a l'élément fatigue qui a beaucoup joué. Ça, on le comprend tout à fait. Mais en même temps, les joueurs, je sais qu'ils en sont conscients. On a entendu Samuel Piette, d'ailleurs. Ouais. Que ça paraissait dans son ton, dans ses propos, et je pense qu'il parle pour le gros du vestiaire. Donc, ce soir, je pense qu'on verra un très bel effort des troupes du côté de l'Impact de Montréal.
Je vais conclure sur ceci. Je ne suis pas convaincu que tout le monde dans l'organisation de l'Impact était sur la même longueur d'onde par rapport à comment traiter ce championnat canadien. Je ne suis pas certain que Rémi Garde était à 100% au courant à quel point c'était important pour l'Impact de gagner cette compétition. Mais ça, c'est juste une opinion et...
une impression.
Je me la suis formé par rapport à certaines conversations que j'ai eues avec certaines personnes. Maintenant, on tire un trait là-dessus. Il faut l'oublier et il faut continuer d'aller de l'avant. Maintenant, le dossier Jimmy Briand. On en a beaucoup parlé. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas entre l'Impact et Jimmy Briand. Moi, je ne suis pas ici pour dire qui a raison, qui a tort, parce que je pense qu'il y a probablement du blâme des deux côtés. Ceci dit, ce qui est décevant, ce qui est triste là-dedans, c'est que bon, on a un agent qui sort public, qui raconte sa version des faits. Et là, c'est pas la première fois. Et dans les deux, trois dernières années, là, il y en a eu des agents et des joueurs qui ont critiqué un peu la façon dont l'Impact réglait ses dossiers. Et ça fait mal paraître l'organisation. Et en plus, on se prive d'un gars qu'on aurait vraiment eu de besoin. Là.
Ouais, ça fait... Écoute, personnellement, je suis pas de l'école de pensée que la réputation de l'Impact est si entachée que ça. Un agent qui sort aussi public, qui révèle autant de détails, premièrement, c'est pas très professionnel. Deuxièmement, ça démontre un certain amateurisme. Et comme on a pu voir dans les transactions avec les infos qu'on a eues de part et d'autre, là, les infos que lui-même a données, on a vu un certain amateurisme aussi dans la façon de mener les négociations avec le club. Parce que cette négo-là où l'accord a bloqué par rapport au fameux package qui était les à côté par rapport après salaire, donc la maison, la voiture, peut-être même l'éducation pour ses enfants, de ce côté-là, si l'Impact les mettait sur papier noir et blanc dans un contrat, le statut de Jimmy Briand passait d'un joueur régulier qu'on paye avec du TAM, de l'argent d'allocation, à un joueur désigné. Malheureusement, on aurait dû, et je pense que ça aurait dû être fait si ça n'avait pas été fait, on aurait dû en parler au début des conversations. Ça aurait dû être un sujet qu'on n'aurait pas dû survoler ni d'un côté comme de l'autre, comme ça a probablement été fait. Et là, on aurait évité tout ce malentendu qui mène, malheureusement, à l'avortement de cette transaction qui aurait pu être très bénéfique pour l'Impact de Montréal, parce que ce gars-là était le fit parfait, là, il faut le dire.
Écoute, je veux expliquer des choses aux gens qui nous écoutent, parce que plusieurs vont dire: mais le gars, il gagne déjà un bon salaire. Comment se fait-il qu'on est obligé de payer cela? C'est quand même coutume dans le soccer où ça va ressembler, par exemple, je vais essayer de faire une comparaison pour que les gens puissent comprendre. Arcadio, tu es embauché par, je ne sais pas moi, le 98.5 pour faire un travail. Et là, ben, tu as un salaire. Et dans ton salaire, on ajoute, par exemple, je ne sais pas moi, de l'argent pour ton essence. On ajoute des assurances, par exemple. On ajoute, je ne sais pas moi, un cellulaire. Donc, c'est un peu ça, là, dans le fond. Et c'est souvent de la façon dont ça fonctionne. Surtout quand le joueur accepte un salaire qui est un peu plus bas pour permettre à l'équipe de faire entrer ce joueur-là dans le plafond salarial. Et la MLS, jusqu'à un certain point, on va dire la vérité, ferme les yeux sur ce type d'entente entre les clubs et les joueurs. Et c'est souvent de l'argent qui n'apparaît pas sur les plafonds salariaux, les choses comme ça. Maintenant, c'est un peu ça qui a chopé, là, dans le fond. Là.
Et surtout aussi dans le contexte où un gars, ça change complètement pour la première fois de sa carrière, non seulement de pays, mais de continent. Donc, ça aussi, ça joue en termes de sécurité. Puis bon, d'avantage compétitif pour un club d'amener des joueurs de cette qualité. Voilà. Donc, c'est dommage parce que ça aurait dû être un détail.
Absolument.
Ça aurait dû être un détail. Et là, évidemment, lorsque il y a eu forcing entre le joueur, l'Impact lui a dit: le joueur s'en venait à Montréal, avait son billet en poche, il était censé de voyager,
on lui a dit viens,
on va en discuter, on va essayer de régler ça. Il a eu du forcing, n'a pas voulu, et là, ben, on connaît un peu le personnage, on connaît le tempérament du président Saputo. Il n'a pas apprécié d'être pris en otage. Il n'a pas apprécié le bluff du côté du clan Briand pour des choses qu'on dit du côté du clan Briand qui avaient été promises. Donc, voilà, il y a eu ce malentendu. Mais probablement.
De part et d'autre, Arcadio, je veux dire, tu sais, je peux pas blâmer l'individu qui dit « Moi, je veux pas m'embarquer dans quelque chose sans avoir la certitude d'avoir une vraie poignée de main, quelque chose d'écrit noir sur blanc. » Parce que malheureusement, dans le monde du sport, ça arrive trop souvent. Oui, je te promets ci, je te promets ça. Finalement, tu arrives sur place, c'est plus ça. Donc, écoutez, je pense que de part et d'autre, on aurait pu mieux gérer ce dossier-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et ça fait mal à l'équipe. Je veux dire, Rémi Garde, hier à Arcadio, dans les deux premières questions qui lui ont été posées sur le dossier, je crois qu'il a dit 6 fois, je suis très déçu.
Ben oui,
donc,
c'est sûr.
Il peut pas le dire plus clairement que ça, là. Pour lui, c'est une déception. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que on est à quelques semaines de la fermeture de cette fenêtre des transferts. Et, eh bien, c'est pas en claquant des doigts qu'on trouve un autre joueur de la qualité de Jimmy Briand.
Non.
Et qu'on le convainc de venir ici, qu'on lui fait signer un contrat, qu'on l'amène. Donc, pour moi, et ça, Adam Brass l'a quand même assez clairement mentionné hier dans le point de presse, je pense qu'on va devoir se tourner vers d'autres équipes MLS qui auront un intérêt pour peut-être se départir de certains éléments intéressants pour faire des ajouts chez l'Impact. Moi, je pense que c'est comme ça que ça va se décider. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Écoute, c'est la piste MLS, ce serait excellent. C'est certain, on est en droit aussi d'espérer que l'Impact de Montréal avait d'autres pistes aussi. Parce que ça fait longtemps aussi qu'on essaie de magasiner des attaquants. Peut-être qu'on avait déjà parlé avec quelques joueurs. Donc, s'il y a des pistes qui étaient encore tièdes, ne serait-ce que tièdes, on pourrait peut-être les rallumer. Mais voilà.
Parce que là, la question, c'est, en ordre chronologique, est-ce que Adam Brass, lorsqu'il fait l'acquisition de la place internationale, sait déjà que Jimmy Briand vient pas?
Non, je crois pas. Moi, je pense que dans la chronologie des faits, on a obtenu la place.
Pour lui?
Pour lui, ben oui, c'était la place pour Briand, c'est certain.
Donc c'est là,
certain.
C'est 100 000 $ aux poubelles, à moins vraiment...
Non, ben bon, la place, on l'a, la place, on l'a.
Oui, mais elle est là jusqu'à la fin de l'année, si on ne l'utilise pas,
c'est
100 000
$
gaspillés.
C'est vrai, t'as raison, ouais, vu que c'est une place jusqu'à la fin de l'année, on pourrait la perdre, t'as tout à fait raison.
En tout cas,
on verra. Ben voilà, ouais, ça, côté perte d'argent, on ne donne pas notre place, malheureusement.
Mais c'est pas impossible qu'on savait déjà que Briand s'en venait pas et qu'on a déjà un plan B qui est déjà avancé. Et qu'on a procédé à cette transaction-là.
Dans son communiqué, quand l'Impact annonce que Briand ne vient pas, explique la situation ou donne du moins sa version des faits, ils mentionnent à la fin du communiqué, nous serons en mesure d'annoncer des arrivées prochainement.
Exact.
Donc, de ce côté-là, ça veut dire qu'il y a des conversations qui sont déjà bien avancées. Après, bon, tout, dans le foot, voilà, tout est possible. On le sait, on l'apprend à chaque année, plusieurs fois par année. Mais je pense qu'il y a des pistes, il y a des pistes qui sont chaudes, en espérant, par exemple, qu'on soit capable de signer un œuf de qualité, parce que c'est un manque à combler incroyable du côté de l'Impact de Montréal. Avec un gars comme Briand ou d'une qualité un peu moindre, l'Impact n'est pas éliminé du championnat canadien. L'Impact aurait plié cette série-là dès le match aller, avec toutes les chances qu'ils ont eues. Donc, de ce côté-là, ça démontre l'étendue du besoin, ça donne la différence que fait ce type de joueur-là. Donc, en espérant qu'on soit capable d'aller défricher du talent de ce côté-là, parce qu'on en a cruellement besoin du côté du bleu blanc noir.
Alors, on s'arrête le temps d'une courte pause. Les joueurs sont toujours sur le terrain, période d'échauffement toujours active de part et d'autre, Atlanta et Montréal, les deux clubs ont tous leurs joueurs sur le terrain pour l'échauffement. Et au retour de cette pause, on va vous parler plus spécifiquement maintenant du match de ce soir, de qu'est-ce qui s'en vient pour l'Impact de Montréal, le match des étoiles aussi qui s'en vient cette semaine du côté d'Atlanta, l'Atlanta United qui prépare ce grand spectacle de la mi-semaine contre la Juventus, bien sûr. Dans quelques instants, nous vous reviendrons. Et merci d'être là en notre compagnie au soccer de l'Impact sur une station Cogeco. Alors, nous voilà de retour au stade de Saputo pour ce match de soccer entre l'Impact de Montréal et le Atlanta United. Atlanta au premier rang dans la conférence de l'Est. Tout baigne dans l'huile pour eux. En fait, dans les 10 derniers matchs, aucune défaite. 5 victoires et 5 matchs nuls. Quand on regarde le rendement de Joseph Martinez, 22 buts et 3 passes. C'est absolument incroyable. Écoute, c'est un but par match en moyenne. Là.
Ouais.
Normalement, là, si la tendance se maintient, il devrait en marquer au moins un ici ce soir. On se souvient que l'Impact était allé à Atlanta, avait joué un système, si je me souviens bien, c'était un 5-3-2 qu'on avait présenté là-bas. On avait tenu le coup pendant 45 minutes.
Voilà.
Je crois que c'était 0-0.
Je pense qu'on avait pris les devants en première demi.
Peut-être même, oui. Est-ce que c'est Mancosu qui avait marqué? Pas Mancosu.
Non, mais on menait 1-0 et puis on s'était écrasé après en deuxième demi pour perdre 4-1, si je me souviens bien.
Alors, j'ai ça devant moi ici. Atlanta, donc c'était le 28 avril. Défaite de 4-1. C'était Taider qui avait marqué son premier but. Et ensuite de ça, on en avait accordé 4 du côté de l'Impact. Maintenant, ce ne sera pas plus facile ici ce soir, mais... Clairement, on a beaucoup plus confiance en nos moyens puisqu'on sort avec un 4-3-3. Il n'est pas question d'essayer de, de défendre toute la soirée, surtout pas à domicile.
Et l'Impact a évolué depuis. L'Impact a trouvé un peu son identité. Le travail de Rémi Garde et de son staff avec ses joueurs a payé, évidemment, comme on a pu le voir au cours des dernières semaines. Donc, c'est une équipe complètement différente qu'on va voir ce soir par rapport à celle qu'on a vue en début d'année. Et Atlanta, d'ailleurs, Tata Martino, le coach d'Atlanta, le mentionnait dans une entrevue que j'ai pu écouter là, au cours des derniers jours, qu'il se méfie beaucoup de cette équipe qui, selon lui, a énormément évolué depuis justement ce premier match.
Oui, c'est vrai. Maintenant, Atlanta, ils ont aussi d'autres choses en tête, étant donné qu'ils vont recevoir le match des étoiles cette semaine. Donc, c'est à Atlanta. On tente de fracasser le record de tous les temps pour l'assistance pour un match des étoiles. En fait, c'est plus de 70 000. On a annoncé en début de semaine qu'on avait vendu jusqu'à maintenant 65 000 approximativement. Je ne sais pas comment vont les ventes depuis l'annonce du fait que, par exemple, Ronaldo n'y sera pas, Higuain non plus, Dybala non plus. Est-ce que ça a fait en sorte qu'il y a des gens qui se sont désistés? Je ne sais pas. Écoutez, moi, je vais regarder le match des étoiles parce que je dis toujours, je trouve que c'est un des très bons matchs des étoiles si on compare à d'autres ligues. Mais, écoute, il y aurait peut-être moyen, on devrait peut-être songer à repousser le match des étoiles d'une semaine ou deux pour s'assurer que tous les meilleurs de chaque équipe soient rendus avec leurs équipes. Parce que Ronaldo, là, écoute, il vient de jouer la Coupe du Monde. Higuain a joué la Coupe du Monde. Dybala a joué la Coupe du Monde. Les gars ont aussi besoin de repos. C'est normal pour eux de ne pas être avec leur équipe encore à ce stade-ci. Je ne sais pas c'est quoi la solution idéale.
Ouais, écoute, ça pourrait en être une, c'est certain. En même temps, je sais qu'il y a des joueurs, par exemple, les Cristiano Ronaldo de ce monde, parfois dans leur contrat, ils ont des clauses que c'est ce type de match-là.
Ils ne sont pas obligés
de le faire, c'est ainsi ça. De suite. Donc, même si on changeait les dates, là, je pense pas qu'on verrait des Ronaldo, des Messi dans les tournées internationales. Mais c'est vrai que pour les autres, comme Higuain, comme Dybala, qui sont de grandes vedettes, mais qui ne sont pas ils n'ont pas le statut des astres que sont Ronaldo et Messi, par exemple, ça pourrait être intéressant parce que c'est vrai que les gens, quand ils achètent des billets pour ce type d'événement, on veut voir ces joueurs qu'on a rarement l'occasion de voir en Amérique du Nord. Donc, ça pourrait être une piste de solution, en effet.
Mais en tout cas, moi, je vais regarder le match quand même. On va voir ce que ça va donner. Rappelons que Nacho Piatti est le seul représentant de l'Impact de Montréal.
Encore.
Je pense que c'est assez juste. Hein?
Oui, tout à fait.
Il n'y avait pas vraiment d'autre choix.
Il n'y avait pas d'autre choix. Il y a des joueurs qui font bien, mais en même temps, Nacho, c'est celui qui se détache toujours du lot. Et c'est un bon représentant, un bel ambassadeur pour Montréal et pour le club. C'est bien parce que Nacho aussi est capable, évidemment, comme on sait, de s'exprimer en français. Donc, ça rajoute un peu à ce volet, justement, ambassadeur de la ville qu'il peut donner à travers la MLS.
Écoute, si Tyder avait commencé la saison un peu plus en force, peut-être qu'il aurait pu être considéré. Samuel Piette, avec le nombre de minutes qu'il joue, c'est sûr qu'il ne joue pas à un poste qui est très sexy, mais
ça en prend du côté des étoiles pour monter l'équipe. Donc, de ce côté-là, même un gars comme Silva, si Silva est arrivé en MLS avec le même rythme qu'il a aujourd'hui, là, il a déjà un but, sept passes. Donc, il pourrait aussi être parmi les candidats. Mais le début de saison difficile de l'Impact de Montréal, évidemment, leur a coupé les chances de ce côté-là.
Parce que lui, là, son compteur était à zéro il y a un mois.
Quand il s'est mis en marche, ça a été le jour et la nuit.
Donc, à un but, cette passe, là, quand on regarde au cumulatif, il est le deuxième meilleur chez l'Impact après Nacho Piatti. Il y a aussi Saphir Taylor, bien sûr, à 5 buts, 3 passes, qui a contribué sur 8 buts. Mais pour le reste, bon, c'est quand même assez mince du côté de l'Impact de Montréal. Maintenant, écoute, on en parlait tout à l'heure un peu avec Pierre, puis moi, j'ai le sentiment qu'avec ce qu'on a vu sur le terrain dans les matchs MLS spécifiquement, quand Rémi Garde joue son 4-3-3 avec ses meilleurs, on a vu de belles choses dans les dernières semaines. Des choses concrètes.
Oui, tout à fait.
Maintenant, est-ce que les mauvaises nouvelles de cette semaine, l'élimination du championnat canadien, cette saga Jimmy Briand peut laisser des traces? On espère que non. Parce que si on commence à piquer du nez à partir de maintenant, Ça serait décevant, là.
Ouais, non, je crois pas que... Écoute, la défaite à Vancouver pourrait... Jimmy Briand, non. Hein, parce que les joueurs, eux, ils se détachent toujours de
des arrivées. Ils font ce
qu'ils ont. Ils connaissent pas Jimmy Briand. Peut-être certains, ils l'ont déjà côtoyé, mais ils en ont rien à faire de Jimmy Briand. Oui, ils auraient aimé avoir un gars qui est capable d'amener de l'eau au moulin offensivement. Mais tant que le gars arrive pas, tant qu'on l'a pas rencontré, tant qu'il y a pas vraiment de fraternisation de ce côté-là, il y a pas vraiment... d'implication émotionnelle de la part des joueurs qui restent très distants. Pour Matteo Mancosu, ça va peut-être être un réveil aussi. Il va peut-être se dire, c'est peut-être j'ai une deuxième chance. Là, parce vrai. Que si Briand arrive, là, Mancosu, c'est fini, il ne joue c'est plus. Fini, là, fini. Il y a peut-être une chance de se faire valoir, de continuer à justifier un peu sa valeur et à faciliter peut-être un transfert. Donc, c'est une chance pour lui. La défaite à Vancouver aussi, moi, je pense que ça va être une source de motivation pour certains joueurs parce qu'au niveau de qu'est-ce qu'on a donné, au-delà, comme je le disais, au-delà du 11 partant, au-delà du dispositif tactique de Rémy Garde, l'effort n'y était pas, la passion n'y était pas pour une demi-finale comme ça aurait dû l'être. Donc, les joueurs, je crois qu'ils en sont conscients. Et aujourd'hui, ça risque de transparaître sur le terrain.
Écoute, la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, mis à part Piatti, qui lui va voyager à Atlanta pour le match des Étoiles, et bon, écoutez, c'est sûr qu'il ne jouera pas 90 minutes là-bas. Là. Il va jouer peut-être une demi, ce ne sera pas si grave que ça, mais en même temps, bon, il doit voyager, ouais. Il y a des responsabilités médiatiques et tout cela.
C'est sûr.
Pour le reste des joueurs, écoute, ça va faire drôlement du bien, une semaine complète. Sans match. On se retrouve samedi pour le match contre DC United, mais on va avoir la chance de souffler un peu et en espérant aussi qu'on puisse avoir du renfort. On parle de... Écoute, Carl Fisher, là, on parlait de 4 mois au mois de janvier.
Ouais.
Il devait revenir au mois de mai. Arcadio, on a terminé le mois de juillet. On le voit toujours pas dans les parages de l'équipe. Il a fait le voyage, soit dit en passant, dans l'Ouest, mais il n'est pas habillé encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui tarde dans le cas de Carl Fisher. Mais ça traîne en longueur, là. Il y a bien sûr Zakaria Diallo aussi, dont on disait il y a, quoi, 3 semaines, qui serait peut-être prêt dans 3 semaines. Ben, on est là, là. Alors, peut-être
ouais.
que...
Ouais,
peut-être
après, que bon, la forme de match, tout ça, ça risque de prendre un peu de temps. Mais c'est vrai qu'éventuellement, en amont, dans cette saison-là, où on va vraiment être dans le dernier droit pour possiblement encore tenter de se tailler une place en série. Là. Ça pourrait être des renforts qui seront bienvenus. La clé, je pense, pour l'Impact de Montréal, maintenant qu'on a une semaine, c'est évidemment le repos, ce repos qui sera mérité, qui va faire le plus grand bien. Et il faut pas s'endormir, là, parce qu'on reçoit DC United, on aurait peut-être le risque, le réflexe de les prendre à la légère sans trop le vouloir. Là. Ça, faudrait éviter cette erreur-là et repartir en force avec un effectif reposé et une belle victoire samedi prochain là, face à un adversaire qui est plus que prenable.
Ce soir, là, la bonne nouvelle, c'est qu'on va retrouver en charnière centrale Rod Fanny et Rudy Camacho, les deux gars qu'on veut avoir là la majorité ouais. du temps, qui ont quand même accompli du bon boulot l'un à côté de l'autre depuis le début lorsqu'on les a joints. Rudy Camacho, malheureusement, avait été blessé là, ouais. la semaine dernière. Heureusement, il est prêt à revenir au jeu aujourd'hui. Et donc ça, défensivement, on doit dire la vérité, l'Impact se porte beaucoup mieux là, depuis que ces deux gars-là ont repris l'habitude de jouer ensemble. Les chances de marquer des adversaires sont plutôt rares. Quoi que ce soit, avec Joseph Martinez
et Miguel
Almirón. Ça risque d'être dangereux. OK, on s'arrête le temps d'une petite pause. Il y aura le bulletin de nouvelles ensuite. Et dès notre retour, on vous donne les alignements partants et le coup d'envoi de ce match de soccer entre l'Impact de Montréal et le Atlanta United FC.